critique par le père Philippe à Saint-Joudard, le 20 janvier 90.
À ce pouvoir d'auto-réflexion en raison même de son caractère spirituel séparé de la matière, séparé du sensible. C'est l'immanence la plus parfaite de la vie. La vie implique cette immanence, se mouvoir. On peut arriver non seulement à se mouvoir, mais aussi à avoir cette limpidité, cette lucidité de réfléchir sur sa propre démarche. Alors, quand est né ce point de vue critique, je crois que c'est chez Aristote que nous trouvons le premier moment de la critique. Platon connaît aussi un moment critique. C'est autre chose que connaître la critique. Il connaît un moment critique de sa philosophie avec le Parménide. Alors on pourrait dire que c'est le Parménide qui est le point de départ de la critique. Mais je crois qu'il faut bien distinguer ces deux aspects de la critique qu'on voit tout de suite. Dans le Parménide, moment où on comprend ce qu'est la science, qu'on peut répondre à la critique. Puisque si on reste dans une démarche purement personnelle et individuelle, purement subjective, on aura comme réponse uniquement c'est ce qui est ma détermination, mon orientation. Laissez-moi tranquille. Oui, affectivement, par exemple, c'est comme ça. J'aime telle personne, vous ne l'aimez pas, mais tant pis. Ça m'est égal. C'est mon amour. C'est purement subjectif. Vous n'allez pas dire mon amour, la personne que j'aime doit être aimée par tout le monde. Vous n'avez jamais ce souci-là. C'est très curieux du reste. Parce que vous devriez légitimer la personne que vous aimez en disant mais la personne que j'aime, c'est la personne la plus admirable qui soit, la plus merveilleuse qui soit. Donc vous devriez l'aimer. Vous critiquez quelqu'un dans la correction fraternelle. Tu exagères, il n'y a plus que ça. Tout le reste, ça n'existe plus. Mais on fait une critique de l'affectivité, de l'affection qu'on peut avoir vis-à-vis de telle personne, du choix. C'est pas digne de toi, voilà la critique d'une mère à son fils qui commence à aimer quelqu'un qui n'est pas tout à fait dans la perspective de la mère. C'est pas digne de toi, regarde un tout petit peu, quoi. Fais attention, où est-ce qu'elle va te mener. C'est une critique qui n'est pas du tout objective, mais qui essaie de détourner, dévier. Tandis que dans la critique intellectuelle, tout de suite, pour montrer le point de vue, c'est erroné. Ce n'est pas juste, ce n'est pas légitime. Regardez Parménide. Parménide critique les idées. Le Parménide critique le fondement même de toute la philosophie de Platon. En disant, ce n'est pas juste de faire reposer une philosophie sur les idées. Parce que on a le sens que la philosophie est science. Donc, universelle et objective. Si la philosophie était purement une démarche individuelle, personnelle, subjective, vous pourriez simplement critiquer la philosophie comme vous critiquez une amitié, comme vous critiquez un amour passionnel. Pas du tout la même chose. Je crois que c'est important parce que ça fait comprendre le point de départ de cette critique intellectuelle qui rejette parce que on n'est plus objectif, on n'est plus scientifique, on atteint quelque chose qui est purement de notre intuition, de nous. On est en présence, et c'est un dialogue qui présente cela, de la critique, le jeune Aristote est présent, Parménide est là, on est en présence d'une critique, d'une démarche philosophique, comme une démarche philosophique avec Platon. Commence à être scientifique au sens de Platon, hein, c'est-à-dire dialectique. On fait cette critique, mais ce n'est pas encore la vraie critique philosophique. Parce que vous pouvez avoir un imbécile qui vous critique. Quand vous avez un imbécile qui vous critique, ben, vous lui montrez que ce qu'il dit ne tient pas et puis c'est tout. Continuez votre démarche exactement comme dans la correction fraternelle. Ce que tu me dis, c'est très bien, mais tu ne vois pas les vraies intentions. Et on rectifie de cette manière-là. accepte la critique. C'est la grandeur de Platon, du reste. Il va profiter de cela pour aller plus loin. Il y a tout un aspect, évidemment, rhétorique. Est-ce que c'est une autocritique? Ou est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui le critique? Ça, on ne le saura jamais. Dans Platon, c'est comme pour Diotime. Diotime qui critique l'amour. Ou qui initie à l'amour. Vous voyez, c'est différent. Diotime initie Socrate à l'amour. Tandis que là, c'est vraiment la critique. C'est peut-être aussi une différence qui vous répondrait entre l'aspect affectif et l'aspect intellectuel. Ce qui est sûr, c'est que dans la perspective d'Aristote, nous voyons non plus la critique qui vient de l'extérieur, mais une critique qui vient de l'intérieur. Alors, chez Platon, c'est peut-être déjà comme ça, mais ce n'est pas exprimé comme ça. Vous voyez la différence, hein ? Pour Platon, la critique vient de l'extérieur. Pour Aristote, et c'est le premier moment, et je crois que c'est là où nous commençons à comprendre ce que c'est que la critique dans la philosophie, c'est que la critique naît de la démarche philosophique elle-même. La sagesse doit se critiquer, elle doit se défendre. La sagesse doit impliquer cette auto-réflexion pour montrer que son cheminement est juste, pour montrer que la voie qu'elle prend est exacte. Le philosophe doit pouvoir défendre que seule l'expérience permet une philosophie objective, que tout autre point de départ ne permet plus une philosophie objective. Ça, c'est un aspect critique. C'est pas un aspect philosophique, c'est un aspect critique. Mais vous voyez comme c'est important, parce que c'est la philosophie qui elle-même se défend par avance contre toutes les critiques et qui montre que son point de départ ne peut être que cela. Je crois que c'est chez Aristote qu'on retrouve cette autocritique à l'intérieur de sa philosophie. Il y aura une troisième démarche. Je crois qu'il y a trois démarches. Il y aura une troisième démarche où on essaiera de faire de la critique une partie de la philosophie. Alors que chez Aristote, ce n'est pas une partie de la philosophie. C'est la sagesse qui se critique elle-même. Et qui se critique nécessairement. Et qui n'essaie pas de s'établir organiquement. Vous voyez ? Donc je crois, si on regarde historiquement, hein, je crois qu'il y a trois moments qu'on peut assez bien préciser. Au point de vue histoire de la critique, on est critiqué. La critique vient de l'extérieur. On se critique. Et on essaie de comprendre comment la critique peut s'organiser pour aller le plus loin possible dans la critique. Alors, je regarde ce second moment. Le second moment chez Aristote. Vous voyez ça dans plusieurs passages d'Aristote, très nettement. C'est même, je crois, très important pour comprendre la philosophie première d'Aristote. Toutes les difficultés des philologues et des historiens proviennent de ça. C'est que ils ont une vision uniforme d'Aristote, univoque d'Aristote, et mettent tous les livres un peu en parallèle. Alors que, de fait, la philosophie première d'Aristote, parce qu'elle est sagesse, va au niveau réflexif. Je vais vous donner quelques exemples pour que vous compreniez. Et ceci, j'allais dire, on l'aura retrouvé dans toute la philosophie d'Aristote. Et je crois qu'il a commencé par la philosophie première. Le livre premier, par exemple, de la physique, veut montrer qu'il est possible d'avoir une philosophie de la nature. Et ceci face à Platon, qui l'a nié. Alors voyez, là vous trouvez les deux. Vous avez quelqu'un qui a rejeté la philosophie de la nature, à la suite du reste d'Héraclite. Le pas de pareil, puisque tout coule, puisque tout bouge, on ne peut rien fixer. Il n'y a rien de certain. Alors Aristote va essayer, dans le premier livre de la physique, de montrer qu'il est possible d'avoir une philosophie de la nature. Les points qui donnent l'intelligibilité du mouvement de ce qui est mu et qui permet par le fait même d'établir une philosophie de la nature. Donc vous voyez, la critique va apparaître tout de suite pour montrer la possibilité d'une science, d'une philosophie, en face de ce qui le dit. Alors, on a là, et c'est l'intérêt, je crois, de ce premier livre de la physique d'Aristote, c'est qu'on est en présence à la fois de la grosse objection, de la grosse attaque d'un Platon qui nie la philosophie de la nature, d'un Héraclite qui nie la philosophie de la nature, et en même temps, d'un essai d'autocritique. Il me semble que c'est cela qui va donner naissance à cette méthode dialectique d'Aristote. La dialectique chez Aristote, c'est de relever les diverses opinions des philosophes. Vous voyez, ça c'est déjà un souci objectif de critique, de montrer comment on est en présence de philosophes qui, de fait, ont rejeté la philosophie qu'on voudrait établir, dans sa totalité ou dans ses parties. D'où la nécessité d'une dialectique qui montre les diverses opinions contraires, puisque c'est le propre de la dialectique de relever ces diverses opinions, non pas selon un ordre historique, mais selon un ordre objectif. C'est donc l'utilisation de la critique pour la naissance de la dialectique, pour éveiller l'esprit, puisque pour Aristote, la dialectique qui montre la diversité des opinions éveille l'intelligence. C'est quand vous êtes en face de positions contradictoires, de positions philosophiques qui s'opposent, que votre intelligence s'éveille. Mais où est la vérité? Comment atteindre la vérité? Puisque je suis en face d'un Héraclite et d'un Parménide qui ont deux positions totalement différentes. Comment découvrir la vérité? Vous voyez, on utilise la critique à l'intérieur de la philosophie, dans cette position dialectique, ce qui est propre à Aristote. Platon ne le fait absolument pas. Il y a là quelque chose d'intéressant parce que ça nous montre que la critique a quelque chose de positif. Puisqu'on tient compte de l'opinion de l'autre. Tenir compte de l'opinion de l'autre, c'est s'éveiller à sa propre connaissance. Et c'est d'essayer de l'intégrer d'une manière positive, et non pas d'une manière manière négative. C'est de comprendre qu'il y a là un cheminement intéressant et important. Donc, première position, j'apprends la première parce que historiquement elle est première. Et elle est intéressante parce que elle nous montre comment on utilise ceux qui s'opposent dans la philosophie première. Et alors vous retrouverez cette méthode dialectique dans toutes les œuvres d'Aristote. Donc il est très attentif à la critique, très attentif à l'opinion des autres. C'est pas du tout un philosophe qui veut donner son originalité, pas du tout. Il recherche la vérité. Alors parce qu'il recherche la vérité, tout philosophe doit chercher la vérité. Si tout philosophe recherche la vérité, c'est un ami. Je m'en sers. S'il est en face d'un philosophe qui ne cherche pas la vérité, ça c'est différent. Il n'est pas un philosophe. Puisque le philosophe, c'est celui qui recherche la vérité. Celui qui n'a pas l'intention de chercher la vérité, laissons-le courir. C'est un rhéteur, un beau parleur. Il veut séduire. Il ne cherche pas la vérité. Vous voyez ? Et ça, c'est la critique qui permet de faire ce discernement. Et on comprend très bien, en face des sophistes, Aristote ne se sert pas tellement des sophistes. Parce qu'il ne cherche plus la vérité. C'est-à-dire qu'il se cherche Hésiode, Parménide, même Hésiode, Héraclite, tous les philosophes, ils cherchent la vérité. Alors saint Thomas, lui, reprendra ça en disant que tous ceux qui cherchent la vérité sont des amis. C'est très beau, ça. Mais c'est l'aspect utilisation de la critique. Être heureux d'être en face d'opinions adverses pour exciter, éveiller mon intelligence. Ne pas fuir la critique. L'aborder directement. Parce que quand tu es en face de quelqu'un qui cherche la vérité, parce que s'il ne cherche pas la vérité, s'il critique pour critiquer, très vite on le met dans le fossé. Sur le côté, on n'en parle plus. Tu ne cherches pas la vérité, donc ça n'a aucun intérêt. Tu n'es pas un philosophe. Le philosophe, c'est celui qui cherche la vérité. Et qui la cherche autant qu'il le peut. Alors, dans la philosophie première, on va voir intégré dans sa philosophie première, autant qu'on peut le savoir, cet aspect critique. Le livre Grand Temps, je ne vais pas le développer puisque vous le voyez, le livre Grand Temps montre la critique et la dialectique, l'utilisation de la recherche des causes. C'est un livre très important et très intéressant. Regarde Aristote sur tous ses prédécesseurs, c'est quand même génial. On peut être d'accord ou pas d'accord sur toute chose, mais c'est génial. Montrer que tout philosophe recherche des causes. Et vous voyez, là, sous-jacent à ça, il y a toute une vision de la connaissance scientifique. Et cette connaissance scientifique pour Aristote n'est parfaitement réalisée que dans la philosophie première et que dans la philosophie tout court. Mais ce qui m'intéresse plus dans la philosophie première, c'est par exemple le livre Gamma. entend. Dis-les. On dira souvent l'être en tant qu'être. C'est plus juste de dire ce qui est en tant qu'il est. Parce que l'être, c'est déjà quelque chose d'abstrait. Eh bien, ça, c'est typiquement la critique. Mais c'est difficile, ce livre, il n'est pas commode. Hein. Parce que justement, il est critique. Il s'agit d'établir quelle est la raison formelle de cette science nouvelle qu'Aristote appelle philosophie première. Parce qu'il est le premier à découvrir cette philosophie première comme au-delà de toutes les autres parties de la philosophie. Donc, grâce à sa critique, parce que je crois que c'est le fruit de la critique d'Aristote, grâce à sa critique, Aristote peut établir les parties de la philosophie. Philosophie de la nature. Philosophie pratique. Philosophie spéculative et philosophie pratique. Cette distinction implique la critique, une réflexion sur la philosophie, alors que pour Platon, la philosophie était uniforme d'une certaine manière. C'était la dialectique. Et au-delà de la dialectique, la contemplation. Mais c'était la dialectique qui était l'épistémé pour Platon. Aristote va discerner à l'intérieur de l'épistémé, donc à l'intérieur de la science philosophique, des parties. Bien, je crois que ça, c'est directement le fruit de la critique, d'une autocritique. Puisque c'est lui-même qui établit ça. C'est lui-même qui établit une distinction entre l'éthique et la philosophie de la nature, entre l'éthique et la poétique, entre l'éthique personnelle et la politique. Des distinctions qui chaque fois sont différentes du reste. Et à l'intérieur de la philosophie première, la partie de l'analyse scientifique, la partie contemplative de sagesse. Aristote va établir la différence entre science et sagesse. Bien, tout ça, c'est le fruit de la critique. Ce qui n'existait pas non plus avant. Alors, que représente cette autocritique? C'est ça qui est intéressant. Aristote l'intègre à l'intérieur, bien qu'il y ait déjà chez lui chez Aristote, nous découvrons cette autocritique. La philosophie étant sagesse, elle doit elle-même se critiquer. Elle doit à chaque instant justifier sa démarche, puisque c'est ça l'autocritique. Justifier sa démarche. Pourquoi la philosophie réaliste commence par l'expérience et ne peut commencer que par l'expérience? Parce que la philosophie cherche à connaître l'homme dans sa totalité. La philosophie ne cherche pas seulement à connaître la connaissance de l'homme. Elle cherche aussi à connaître sa capacité d'aimer, puisque la philosophie implique l'éthique. Mais on reconnaît aussi que la philosophie première ne peut pas être l'éthique. Et donc que la philosophie première, pénétrant très avant, en même temps, demande à l'éthique une démarche autre que sa propre démarche. Tout ça implique une réflexion critique. C'est cela que je voudrais préciser avec vous. À après ce bref aperçu historique. La sagesse demande de se critiquer parce qu'elle est attaquée. Alors elle demande de se fortifier. Elle demande d'avoir cette lucidité dans toutes ses démarches. L'objet propre de la critique sera donc de préciser ce qui est intelligent, de préciser dans la connaissance philosophique l'unité et le fondement et la légitimité de la diversité. Je crois que c'est la première chose. Comprendre que ma connaissance a des niveaux très différents et essayer de saisir quel est le niveau le plus parfait de la connaissance qui peut seul légitimer tous les autres et les préciser. Saisir donc l'organisation propre de ma connaissance humaine. Ma connaissance humaine est une connaissance intellectuelle, mais elle est une connaissance intellectuelle d'un type particulier. Je connais comme un homme peut connaître. Et la présence de l'homme est toujours présente en philosophie. Donc c'est la philosophie de l'homme. Non seulement de l'homme parce qu'elle regarde l'homme, mais c'est une démarche philosophique qui est proprement humaine, qui est typiquement humaine. Il s'agit de comprendre ce que je veux dire quand je dis que cette démarche est typiquement humaine. Le plus propre donc de la critique, c'est de saisir comment j'atteins la vérité. C'est le comment de ma connaissance. Et là, je me sépare ou je me distingue. C'est plus qu'une distinction, c'est une séparation de la philosophie. Le philosophe cherche la vérité. Le critique cherche comment atteindre la vérité. Le critique essaie de voir les manières différentes dont j'atteins la vérité. Et par le fait même, toutes les erreurs possibles, tous les précipices qui sont toujours là présents. Quelquefois je tombe dedans. Et comment on est tombé dedans? Une vraie critique devrait signaler toutes les confusions de toutes les philosophies devant lesquelles je me trouve. Et c'est pour ça que je ne la choisis pas. Pourquoi je ne choisis pas Platon comme grand-père? Pourquoi je ne choisis pas les stoïciens? Pourquoi je ne choisis pas Descartes? Pourquoi je ne choisis pas Hobbes? Pourquoi je ne choisis pas Leibniz? Pourquoi je ne choisis pas Sartre? Pourquoi je ne choisis pas Hegel? Il faudrait, dans une vraie critique, que toutes ces philosophies soient présentes. Et en montrant le nœud qui s'est fait à l'intérieur de toutes ces philosophies. Vous voyez, c'est énorme! Et c'est très intéressant ce point de vue-là, parce que on doit tout le temps creuser. Hein. On n'est jamais satisfait en critique. Le comment de la connaissance humaine. Vous voyez que la critique est très proche de la logique. La logique étudie, elle même souche. C'est très beau à regarder. Deux sapins qui montent. Presque parallèles. Pas tout à fait. Parce qu'autrement, ils ne pourraient pas du même tronc. Mais il y a une souche et puis ils partent. Il y a pour moi la logique et la critique partent de cette réflexion sur la connaissance humaine et sur le comment de la connaissance humaine au service de la recherche de la vérité. Élaguer la critique élague et la logique ordonne.